Nous recevons dans nos studios de Radio Galaxie Patrice Tesser-Dufour, reporter randonneur pour la célèbre revue Pyrénées Magazine et auteur de plusieurs dizaines de livres. Bonjour Patrice.
Bonjour Francis.
Alors vient de paraître ton dernier livre de 112 pages s'intitulant « Randonnée dans les Pyrénées » aux éditions Sud-Ouest. Tu nous proposes 26 balades familiales dans les Pyrénées orientales, l'Aude et l'Ariège. Mm-hmm. Pourquoi avoir choisi cette partie des Pyrénées françaises ?
Bah, ça fait longtemps que je voulais scinder en deux ou en trois parties les Pyrénées, parce que je trouve que quand on part faire des balades, c'est bien de se poser quelque part et de randonner en étoile. Alors bon, le territoire est encore vaste, on va dire, parce que là, il y a trois départements qui sont réunis, mais ça donne des possibilités de rejoindre et de raccourcir des distances pour aller faire des randos. Donc c'était vraiment le côté est des Pyrénées par lequel je voulais commencer. Et l'an prochain, en 2019, c'est prévu, il y aura un guide sur l'ouest des Pyrénées. Il y aura aussi 26 randos donc sur le Luchonnet, l'Aragon, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, donc Béarn et Pays Basque à la fois.
D'accord, voilà. Et dans les itinéraires de randonnée que tu décris, dans ton livre, donc, tu ne te contentes pas de donner l'heure et la direction, tu y rajoutes un vrai cours d'histoire.
Ah oui, c'est un peu le but, ouais. C'est histoire et géographie, enfin, les deux matières que j'ai toujours aimées, voilà, j'aurais pu faire prof d'histoire géo, ça m'aurait plu aussi, mais c'est une autre histoire justement, mais je voulais que les gens ne partent pas sur le terrain. Alors moi j'aime bien également la contemplation, mais j'aime bien aussi en apprendre un peu plus et pas faire juste le pic pour le pic, mais savoir qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi c'est comme ça, où, quand, comment, pourquoi. C'est vraiment des questions de journaliste à la base que je me pose, et je voulais que par exemple d'une balade familiale à Collioure, dans les rues de Collioure, jusqu'à la dernière balade qui se trouve à la carrière de Balassette en Ariège, je voulais que les gens vraiment apprennent des choses, que ce soit sur l'histoire, sur le lieu et sur les hommes qui sont passés avant. Que ce soit des hommes illustres, par exemple à Collioure, mais aussi des hommes comme nous tous, quoi. Moi, je prends avec beaucoup d'humilité et de modestie. Je voudrais dire qu'il y a des gens en fait qui ont fait des métiers formidables, qui malheureusement sont pas dans les livres. Que ce soit les carriers, donc ces gens qui ont travaillé à la dure dans des carrières, des gens qui ont travaillé dans les champs, des gens qui ont construit des refuges, des cabanes, des murettes en pierre sèche et tout ça. Et souvent, moi, je pense à eux parce que je voudrais saluer leur travail. Tous ces kilomètres et ces kilomètres, par exemple, de murettes en pierre qu'on voit le long des routes ou le long de prés, de champs, de prairies, d'estives. En fait, ça a été construit par la main de l'homme. Et voilà, donc moi j'aime bien qu'on salue l'aménagement du territoire. Il y a des géographes qui ont travaillé sur ça. Et j'ai toujours aimé en parler, voilà. Je vais pas aller plus loin.
Ah ouais, d'accord. Tout ce savoir, en fait, ce sont des recherches. Tu les fais où au niveau des archives locales? Tu fais ça où, en fait?
Alors, plein de choses, soit des archives locales, qu'on me passe ou que je trouve, ça peut être aussi des témoignages, en fait, que je récolte quand je vais sur place, ça peut être aussi carrément des visites guidées avec des historiens locaux, par exemple pour la balade dans Collioure, qui s'appelle Les Dessous de la Baie des Anges, où on est en train vraiment de se balader dans les rues de Collioure. Ça, je l'ai fait avec deux guides, c'est-à-dire un copain qui est accompagnateur en montagne, qui connaît très très bien Collioure, et après un vieux Collioureinque qui connaissait aussi plein de choses sur la ville. Et après, même dans cette balade, on s'était arrêté. Alors j'ai pas tout mis, parce que c'est une balade que j'ai écrite il y a très très longtemps pour un autre journal pour lequel je travaillais à l'époque, pour la Semaine du Roussillon. J'ai fait cette balade en 2002. Après Collioure, on n'a pas spécialement changé.
Oui.
Et j'avais appris plein de choses. Donc il y avait même des arrêts un peu spéciaux qui faisaient un peu la balade gourmande, où on goûtait en fait des produits locaux, que ce soit bien sûr du vin de Collioure, mais aussi des gens qui fabriquaient du pain d'épices, des gâteaux, des choses comme ça, des petits trucs qui étaient chouettes. Et après on s'arrêtait pour dire, ben voilà, ici c'est la maison par exemple de Willy Mucha, qui est un artiste peintre, là c'est la maison de Intel. Enfin, il y a plein de lieux à découvrir dans Collioure. Pour moi, c'est une commune très très riche, et au-delà de l'esthétique en fait du village, il y a énormément de choses qui se sont passées et qui se passent encore dans cette commune. Elle a vraiment une histoire très très riche, voilà.
Mais c'est vraiment le point fort de cet ouvrage, comme on dit, ouais, tu mets pas mal d'histoires, pas mal d'anecdotes, et c'est intéressant. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Chaque itinéraire proposé dans ton ouvrage est minutieusement détaillé, c'est-à-dire l'accès, les conseils, les itinéraires. Tu peux développer sur la façon de se servir de ce guide ? ou de ton guide, si tu préfères.
Bah, la façon de s'en servir, déjà, il y a une carte en relief réalisée par Hélène Fugetta, parce que c'est une cartographe avec laquelle j'aime bien travailler, puis que je connais bien aussi grâce à Pyrénées Magazine, on travaille ensemble depuis des années. Des cartes quand même qu'il faut vérifier, hein, que je relis et que je vérifie avant, parce qu'il y a quand même, quand on est cartographe, elle nous laisse quand même des petites coquilles de temps en temps.
Et oui, mais donc, c'est normal quand on va pas sur le terrain.
Il faut bosser dessus. Travailler en fait sur le topo, tout simplement, je voulais qu'il y ait l'altitude de départ, les choses sur lesquelles je travaille, comme d'habitude, j'aime bien marquer le timing et l'altitude. Ouais, mais je voulais aussi décrire presque chaque lieu par lesquels on passe, des lieux clés, hein, voilà, des endroits clés. Et par exemple, là, je suis sur la traversée de la serre de Vingrot dans les Pyrénées-Orientales, ouais, donc côté Corbière. Et donc, les noms importants sont en bleu dans le guide, donc ils ressortent en fait des caractères normaux qui sont marqués en noir, en caractère maigre. Et donc ceux qui sont en bleu, en fait, montrent que c'est un endroit important. Et donc j'explique, par exemple, cet endroit, ce qu'on peut voir, pourquoi il est comme ci, comme ça, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Enfin voilà. J'essaye de donner un peu les sensations que moi j'ai eues sur le terrain. Donc ce qu'il y a à voir, à ressentir, à sentir, à parfois à goûter. Il peut y avoir des fraises, des myrtilles à grignoter. La flore, bien sûr, qu'on peut observer. Donc c'est très très important pour moi. Et puis après, enfin bien sûr, il y a où manger, où dormir, les autres randos qu'on peut faire dans le coin. Il y a l'accès aussi, bien sûr, c'est illustré par des photos. Ce qui est important, alors je pense qu'on va y venir, c'était de mettre en valeur les enfants et la famille, puisque c'est des balades familiales. Donc je voulais que les enfants ou les gens qui m'ont accompagné y soient, pour montrer que tout le monde peut faire ces balades, que c'est facile, que c'est abordable à n'importe quel âge. Par exemple, là, j'avais fait la traversée de la serre de Vingrot avec mon fils. À l'époque, il avait 6 ans. Alors, on prenait le temps qu'il fallait, voilà, on s'arrêtait pour observer des plantes, voilà. Mais on ne s'est jamais fatigué. Il n'a pas râlé, c'est allé tout seul. Vraiment, c'était comme dans du beurre, du gâteau. C'était vraiment chouette. Et à chaque fois, bien sûr, quand on prend le temps quand même en balade, on a grâce à ça des observations, que ce soit de rapaces, la chance d'observer un peu de la faune locale et puis de rencontrer aussi des gens sur place. Voilà.
Ouais. Oui, voilà, c'était aussi une des questions, effectivement, quand on parle bien de randonnée familiale, donc qu'on peut faire avec les enfants. T'estimes à partir de quel âge on peut faire ces randos ? Bon, tu nous disais ton fils 6 ans, mais est-ce que ça peut être plus tôt ou c'est la limite ? Après, ça peut être une rando, on n'en fait pas le tour entièrement, on peut revenir sur nos pas aussi.
Tout à fait, c'est ce que je propose aussi. Mais par exemple, dans ce guide, il y a une autre balade qui se déroule dans les gorges du Sègre à Yau. Et franchement, alors celle-là j'ai bien aimé parce que j'ai mis la photo justement, et j'ai fait cette balade avec à l'époque mes 3 enfants. Et on voit, en fait, il y a ma fille, j'en ai une qui a 8 ans et l'autre qui a 3 ans, quoi. Et donc, c'était pour dire qu'on peut commencer les balades à partir de 3-4 ans si, voilà, de temps en temps, peut-être on les porte un peu, on les aide, on les attend. Mais allez, en moyenne, je dirais que ce guide, on peut commencer à faire des balades à partir de 4-5 ans sans problème. Alors, pas toutes les balades sont jouables à partir de cet âge-là. Par exemple, il y a une balade qui est beaucoup plus difficile. Alors, on met des niveaux de difficulté, mais par exemple, qui sont beaucoup plus difficiles, comme les crêtes de Serrabonne, où je mets 2 niveaux de difficulté en disant, ben voilà, c'est une balade qui fait 3h30, il y a tant de mètres de difficulté, il y a 650 ou 700 mètres de difficulté. Bon, ben celle-là, on la fera peut-être avec des ados qui ont 13, 14, 15 ans, qui ont envie de marcher, qui peuvent se dépenser, et puis voilà. Mais il y a quand même un certain nombre de balades qu'on peut faire dans ce guide, qui sont des vraies balades familiales, qu'on peut faire entre 5 et 10 ans sans problème. On prend le temps nécessaire, mais moi je donne un timing que j'ai repensé à partir des enfants. Franchement, c'est possible, quoi. Voilà. Ouais.
Oui, on rappelle aussi que souvent sur un topo guide comme ça, c'est progressif. L'avantage aussi, c'est qu'on peut évoluer en fonction des randonnées, c'est-à-dire on commence petit et voilà, on progresse, on s'entraîne et on peut évoluer tout simplement. C'est l'avantage aussi de ces guides.
Tout à fait, tout à fait. Puisque là, les balades, ça commence à 1h30, 1h45 et puis on a une balade possible après jusqu'à 3h30. voire une extension pour ceux qui voudraient aller jusqu'au sommet du pic des Trois Seigneurs. Alors on est plus carrément dans une balade familiale, mais j'ai donné l'étang d'Arbu, qui est un étang qui se trouve sous le pic des Trois Seigneurs, donc au-dessus de Tarascon-sur-Ariège. Et en fait, je propose carrément le pic pour ceux qui veulent. Alors là, on est plutôt avec vraiment des ados qui ont 15-16 ans et qui veulent aller, ils sont en forme, ils veulent en découdre et se faire un pic sympa avec un magnifique panorama. Et donc, je donne le temps, 5h30, voilà. Donc, on prend la journée pour le faire, mais on est quand même récompensé par le panorama. Puis, il n'y a pas que des sommets quoi dans ce guide, il y a vraiment une variété en fait de buts de balade, que ce soit le rocher de Carlong, qui est un rocher très spécial où j'étais parti avec Olivier Drobert, le conteur de Sorat, et on s'arrête et là il raconte des contes, donc que je retranscris dans le texte, donc des petites histoires. Il y a la carrière de Balassette, donc c'est une très très belle carrière dans le Couserans, une carrière de marbre, donc là chouette parcours parce que en fait on passe en estive, on rencontre des brebis, un troupeau de brebis, après on rencontre un troupeau de chevaux, on est à flanc, on a une super vue sur le Mont Valier, et puis là on rentre dans la carrière, il y a toute une histoire de la carrière qui est une très très belle carrière qu'on peut traverser sans problème. Il y a les bornes frontières de Bélestat, les bornes frontières c'est des bornes en fait qui ont été installées là en 1258. À l'époque en fait il y a Louis IX dit Saint-Louis qui décide de faire un traité de paix avec le roi d'Aragon parce que la frontière était très très floue au sud des Corbières, donc ils se disent ben voilà, on va implanter des bornes pour dire ben, la frontière elle est vraiment marquée là. Donc c'est la première frontière on va dire entre la France et l'Espagne, même si c'est pas à l'époque encore l'Espagne, c'est que le royaume d'Aragon. Et donc ces bornes frontières ben, elles existent, elles sont donc très très vieilles. Il y en a une surtout qu'on peut observer, il y en a trois ou quatre qui sont cachées souvent dans les broussailles, mais celle-là on peut aller la voir. Donc on passe devant une grotte, la grotte de Bélestat, et on va découvrir cette borne frontière. Par exemple il y a une autre balade, le sentier sculptural de Meyron dans les Corbières. Alors celui-là, exceptionnel, quoi. C'est un sentier où il y a des sculptures qui sont installées, un paquet de sculptures, hein. Il y a une quinzaine de sculptures, plus, donc ça c'est les 15 sculptures permanentes, chaque année il y a une sculpture en plus, donnée par un ou deux artistes, et il y a une vingtaine de sculptures provisoires qui sont installées là du mois de mai jusqu'à fin septembre, quelque chose comme ça. Et donc on peut découvrir des sculptures complètement délirantes. Il y en a qui sont super chouettes, quoi. Voilà. Donc ça c'est très facile, ça dure 1h30. Mon conseil c'est par exemple de pas y aller en plein été dans une journée vraiment cagnard où il fait 36 degrés, ouais. Mais d'y aller plutôt le matin à la fraîche, ou alors le soir, ou alors d'y aller ben, hors saison, on va dire au mois de mai-juin ou en septembre-octobre, au moment où on a des journées un peu beaucoup plus délicieuses, on va dire, au niveau du temps, qui sont agréables, avec un ciel bleu un peu plus pur. Et là on serpente, on découvre des sculptures très très originales. Par exemple il y a toute une série de tortues qui ont été sculptées avec des chaînes de vélo. Voilà. Je dis juste ça, les artistes ont utilisé des matériaux complètement différents, et donc c'est un vrai plaisir de se balader dans ce sentier sculptural de Meyron, qui se trouve à quelques kilomètres du beau village de La Grasse, au cœur des Corbières, donc c'est l'occasion de se visiter, balader, de visiter. Et moi je propose une autre balade justement pas très loin de La Grasse, un ermitage qui s'appelle Notre-Dame du Carla. Alors l'ermitage est pas très beau esthétiquement, bon voilà, sans plus, mais c'est l'occasion de se balader au-dessus, de partir de La Grasse et de se balader au-dessus, là, sur une sorte de large crête où on a un panorama sur les Corbières, et c'est vraiment très agréable. Il y a par exemple un autre truc, notre tour qui est très chouette, c'est le tour du château de Termes, encore dans les Corbières là. Donc on a des vues sur les gorges du Termenet, des vues plongeantes, on traverse les gorges du Termenet, pas très loin d'une super belle cascade, donc là en été on peut aller se baigner, on remonte par le vrai sentier historique qui montait au château, donc par où sont passés vraiment des cathares, Simon de Montfort et tout ça pour assiéger le château, donc je fais passer les gens par là. Voilà, donc des balades, il y en a plein, elles ont toutes des buts différents. Il y a le maquis de Picocel, donc aller retrouver la cabane du maquis qui s'est installée là en 43-44, puis qui a été assiégée et incendiée par les Allemands et reconstruit à l'identique il y a une quinzaine d'années, donc ça vaut vraiment le coup. On se balade dans cette belle forêt là du pays de Sceaux, superbe balade balade, on retrouve la grotte des maquisards en dessous, enfin il y a toute une boucle. Les buts sont vraiment tous différents. Il y en a d'autres, c'est des étangs par exemple, l'étang de Laurenti en Ariège qui est peut-être le plus bel étang d'Ariège. Mmh. On a le tour des étangs de Rabassol, les étangs de Fontargente, on a bien sûr les étangs du Carlite, enfin voilà, il y a quand même pas mal de balades rafraîchissantes autour d'étangs. Le chemin des Auris aussi, qu'est-ce que c'est des Auris, cabane en pierre sèche, mmh. avec ce village. Les Auris, c'était vraiment des villages d'été où les bergers s'installaient avec leurs poules, leurs cochons, puis ils faisaient là-haut le beurre, parce que jusqu'au début du siècle, en Ariège, on fabriquait encore du lait et du beurre. Et petit à petit, en fait, ça s'est changé. À la fin des années 30, en fait, pour être beaucoup plus rentable, les bergers, en fait, ariégeois et andorrans, ont décidé de plus faire des brebis à lait, mais plutôt des brebis à viande. C'est pour ça que ça a beaucoup changé, en fait. Mais à l'époque, on faisait comme dans le Béarn et au Pays Basque. Il y avait des endroits, la Margue, par exemple, c'était l'endroit où on pouvait travailler le beurre, quoi. Voilà, on fabriquait du beurre, du lait, on gardait le lait au frais, il y avait plein de... Voilà. Donc il y a tous ces villages d'Auris qui se trouvent dans la vallée du Soultzem, au-dessus d'Ozat, dans le Vic de Sceaux, et c'est vraiment un chouette endroit à aller découvrir. Par exemple, le sentier d'Elteil, qui est le sentier, on marche sur les traces de l'écrivain Joseph d'Elteil, on est dans les Corbières là, et c'est vraiment une super balade qu'il faut faire, parce qu'il y a plein de panneaux en hommage à Joseph d'Elteil, c'est une balade rigolote en fait, parce qu'on lit les textes, et ils sont tous... toujours un peu une pointe d'humour, il y a un petit truc original qui va nous attraper, et on se dit mais là ce qu'il raconte c'est du lard ou du cochon, voilà. Puis c'est des balades faciles, celle-là 2 heures je l'ai faite avec mes enfants. Et d'ailleurs, la présentation, la préface que je fais, si on partait randonner en famille, pour moi, c'était hyper important d'expliquer, en fait, parce que souvent, on a voilà, les sentiers d'Émilie, des guides de balade famille, mais on n'a pas vraiment le pourquoi et le comment on va faire pour partir en famille. Parce qu'il y a des fois, ben, voilà, les enfants, ils n'ont pas spécialement envie d'aller se balader. Hein. Il y a un âge où, à partir de 10-11 ans, c'est moins évident de les tirer pour aller se promener. Avant, c'est beaucoup plus facile. Donc là, j'explique bien sûr où aller. Donc, on est dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude et l'Ariège. Marcher avec des enfants, c'est plein de choses. C'est s'arrêter pour reconnaître des arbres, déguster une poignée de myrtille, et dessiner le galbe des étages de la montagne. Donc les expliquer, voilà. Dire voilà, il y a plein d'étages en montagne, à quoi ils servent, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on va trouver comme faune et comme flore. Également, récupérer des petites pierres, faire des herbiers, des feuilles, des branches, des choses comme ça. Ça a toujours été ça pour avancer, s'émerveiller en montagne, ça a toujours été important. Et puis il y a aussi le moment où on regarde la carte d'état-major, donc au début ou pendant la balade, et se dire ben voilà, on est là, est-ce qu'on va pouvoir passer par là, comment ça se passe. Il y a la préparation aussi du sac à dos. Et puis, il y a le moment quand on est sur place, qui est important, où on a la possibilité, par exemple, parfois de traverser une rivière sur des pierres, sur un tronc d'arbre. Il y a le moment où on s'arrête pour aller observer des truites, pour aller observer des animaux. Il y a tout ce moment-là. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vécu à travers toutes ces années avec mes enfants, c'était de se dire, ben voilà, on a vécu main dans la main ou parfois juste à côté. En tout cas, on a partagé des moments forts parce qu'on a observé un isard qui passait devant nous, un aigle royal. On a campé ensemble, voilà, et se dire, ben voilà, on a essayé d'allumer un feu parfois alors qu'il commençait à pleuvoir. Donc il y a des moments pas faciles aussi, mais se dire, voilà, c'est quand même des souvenirs et ça crée du partage et du souvenir. C'est ça les balades en famille. C'est ce qu'il faut quand même retenir. Je crois que c'est assez important. Et puis, même si les lieux, enfin, souvent les enfants s'en souviennent plus, on dit bah, tu te rappelles à tel endroit, on a vécu ça et tout. Et puis voilà, quoi, c'est chouette. Et souvent, ils nous disent bah, tiens, j'aimerais bien revenir là parce qu'on avait vécu ça, ou on avait observé les étoiles à tel endroit, on avait caressé des chevaux ici. Enfin, voilà.
C'est une vraie école de la vie, il ne faut pas l'oublier.
Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je pense, Francis, toi aussi, t'es randonneur, on a vécu des choses dans notre enfance qui nous ont attirés vers les Pyrénées, vers la montagne. Et je pense que ce soit des rivières ou des montagnes, en fait, elles nous ont attrapés. La nature, en fait, nous a vraiment captés. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut partager, transmettre en tout cas. Ça, c'est super important. Donc voilà, donc bah, y a toutes ces petites choses au début, les observations de cairns, de fleurs, de papillons, d'isards, de panneaux un peu bizarres. Moi j'ai voulu qu'elles y soient au début du guide en photo pour dire, bah, voilà, y a toutes ces petites choses qu'on croise en montagne, mais qu'on peut croiser ailleurs, hein, dans la nature en tout cas. Et le but c'est de nous donner envie de nous émerveiller et de repartir en montagne, voilà.
Ouais. Oui, parce qu'on rappelle que la montagne, ce n'est pas qu'un terrain de sport, il y a autre chose derrière. Voilà.
Ah oui, bien sûr, oui, non,
c'est
non,
important.
Mais...
c'est important de le rappeler quand même. Si, une chose, quand tu parles des horaires, c'est sans les arrêts, bien sûr.
Oui, toujours sans les arrêts,
ouais. On le reprécise, c'est logique, mais c'est bien de le préciser. Au niveau aussi de tes itinéraires, ce que j'ai trouvé très sympa, c'est qu'ils forment la plupart du temps, hein, pas tous, mais chaque fois, tu as essayé de faire une boucle et non un aller-retour. Et ça, c'est pas mal du tout aussi.
Oui. Chaque fois que j'ai pu, j'ai essayé de faire des boucles. C'est vrai qu'il y a encore 2-3 balades où il y a pas de... C'était un linéaire où on est revenu finalement. Mais en général, on va dire sur les 26, il doit y en avoir plus d'une vingtaine où c'est des boucles. Et le but, ouais, c'était de revenir par un autre itinéraire pour voir encore plus du paysage. Moi, ce que j'aime, hein, ça je le répète, après ça peut être dans des balades familiales, mais dans des balades sportives, c'est m'imprégner du paysage, ouais. C'est voir des paysages différents et à travers une balade, en fait, ressentir et progresser en fait dans le paysage. Le but, c'est vraiment, quand on fait une balade, c'est de revenir dépaysé. Même si on est parti que 2 heures. Juste 2 heures, il y a des fois, franchement, vous avez l'impression d'être parti...
La journée ou plus.
La journée, une semaine, voilà, et on a vécu un voyage, voilà.
Complètement, ouais. On se laisse facilement séduire par le format et le prix du livre.
Ah oui.
Tu peux nous en parler, alors, là aussi un peu.
Le format, c'est un petit format, je sais pas exactement la longueur, mais ça doit être 15 sur 10, un truc comme ça, 15 cm sur 10 cm. Donc ça rentre vraiment dans un petit sac à dos, ou voire une poche intérieure même. Et le prix, alors oui, il est très attractif parce que c'est juste 10 euros. Heureusement que j'ai engrangé ces balades à travers toutes les années, mais alors ça rembourse pas l'essence et le temps qu'on y a passé dessus. Ouais. Et dedans, on trouve quand même une carte à relief pour chaque balade, le niveau de difficulté, le dénivelé, la durée, les belles photos, enfin voilà, d'autres idées de balades à faire dans les environs, et dire que je vais préparer un autre guide sur l'ouest des Pyrénées maintenant, voilà. Donc.
Dans ce topo guide aussi, beaucoup de belles photos. Est-ce que toutes ces photos, elles sont de toi ou pas?
Oui, elles sont toutes de moi, ouais. Il y en a même où j'ai beaucoup plus de photos sur certaines. J'aurais pu tirer sur 6 ou 10 pages. D'ailleurs, ouais, on n'a pas dit. En général, chaque balade fait 4 pages en moyenne. Sauf peut-être une ou deux. Collioure fait 6 pages. Enfin voilà, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus longues. Mais en général, elles sont sur 4 pages. Donc on voulait qu'il y ait quand même 3 ou 4 photos pour bien montrer l'itinéraire. Et il y a une balade dont j'ai pas parlé d'ailleurs, tiens, je voudrais en parler,
oui,
c'est la balade avec un âne à Ain.
Ouais.
Donc mes enfants voulaient faire à tout prix une balade avec un âne, donc au début je m'étais dit, ben, on va partir 4-5 jours, voilà, et puis je me suis dit, bon, je suis quand même tout seul 5 jours avec tous les enfants plus l'âne, je sais pas comment ça va faire, j'avais jamais testé. Donc je me suis dit, on va juste partir 2 jours, donc on part 2 jours avec un âne. Donc on est parti 2 jours, on a fait Ain, on est allé... jusqu'à Planès, et puis on est revenu. Donc on est parti sur le GR10 et on est revenu sur le GR36. Et puis on a fait une autre balade avec ce même âme, l'âne Martin. On a fait donc le sentier archéologique, qui est un super beau sentier. Donc il y a une piste en fait, donc on peut parcourir sans problème en 2 heures avec l'âne. Et là c'était très très chouette parce que bien sûr tout le monde veut monter à tour de rôle sur l'âne.
Et, oui.
Et tout le monde veut tirer l'âne, quoi. Enfin, avoir la longe pour le gérer. Et c'est un bel exercice, autant parce que j'en avais une qui avait peur de monter sur l'âne, et autant parce qu'il y en avait une autre qui avait peur de tirer l'âne. Donc tout le monde s'est essayé à différents moments, et c'était très très chouette, et c'est un bel exercice qui n'était pas compliqué. En plus, on loue l'âne pour 2 heures ou la demi-journée si on veut s'arrêter pour pique-niquer. Et voilà, c'était une belle expérience que tout le monde devrait essayer de renouveler. Donc moi là, je donne une adresse en Cerdagne, dans les Pyrénées-Orientales, mais il y a plein d'autres endroits où les gens peuvent essayer, voilà, de faire une balade avec un âne.
Ouais, c'est bien que tu en parles parce qu'on n'y pense pas assez et c'est dommage. Ouais.
Mm-hmm.
Ah, ouais, tout à fait. Ouais. Bon, et où c'est qu'on peut le trouver, ce livre, dans tout ça?
Bah partout, hein, normalement. Alors là, c'est donc un livre qui est édité par les éditions Sud-Ouest, hein, qu'on peut trouver bah, déjà sur le site des éditions. Donc c'est www.editions-sudouest.com. Mmh. On peut le trouver aussi dans toutes les librairies, normalement, bah, de, en tout cas d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine. Je pense aussi, même un peu plus loin, à mon avis, dans tout le Grand Sud. En tout cas, les deux régions qui sont touchées par les Pyrénées, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ça c'est sûr, on le trouve partout. S'il y est plus, on peut également le commander à son libraire ou le demander à la maison d'édition. Mmh. Et puis c'est un livre qui est donc tout récent, de cette année, de 2018. Il faut que tout le monde, en tout cas nos auditeurs, vont pouvoir trouver longtemps en librairie. Hein. Il va rester au moins 2-3 ans sans problème, vu qu'il va y avoir le complément, son frère jumeau, qui va arriver en avril 2019. Voilà.
Ouais. Rappelle le titre.
Oh, c'est Randonnée dans les Pyrénées, Pyrénées orientales, Aude, Ariège, balade familiale, voilà, édition Sud-Ouest.
Voilà, de Patrice Tesser Dufour, rappelons-le.
Merci Francis.
As-tu un site ou une page où nous pouvons suivre ton actualité ?
J'ai un blog qui s'appelle baladeenpyrenees.over-blog.com où de temps en temps, alors quand j'ai le temps, je ne fais pas tout le temps, maintenant je le fais une fois ou deux par mois, mais il y a des fois je mets alors soit des photos, soit je raconte des petites anecdotes qui me sont arrivées, soit on va dire des brouillons ou des extraits trop pleins de textes que je peux écrire pour Pyrénées Magazine. Donc quand ça paraît pas, ben je le mets là ou voilà. Donc c'est différentes rencontres. Parfois même c'est au-delà des Pyrénées. Ça peut être dans le Minervois, mon autre terrain de jeu, mais parce que c'est aussi pour le pays Qatar sur lequel on travaille, et on a aussi un autre magazine. On travaille sur Occitanie Magazine. Donc ça peut être aussi sur d'autres endroits de l'Occitanie, mais en général c'est sur les Pyrénées. Voilà.
D'accord. Ok. As-tu des projets de livres?
Ouais, il y en a. Il y aura un livre qui va paraître sur Carcassonne, j'espère avant Noël, aux 80 éditeurs. Et puis, il y a deux jeux de cartes qui doivent paraître aux éditions Kern. Alors, un jeu de cartes type question pour un champion sur les Pyrénées et un autre sur Toulouse. Donc, à voir si les gens connaissent bien les Pyrénées et Toulouse. Donc, 110 cartes de jeu où si à la première indice, on trouve déjà la réponse, ben, on a 10 points. Deuxième indice, on n'a que 8 points. Troisième indice, on en a 6. Quatrième indice, on en a 4. Deuxième indice, au dernier indice, c'est 2 points. Et si on n'a rien trouvé, ben c'est 0. Ouais. Voilà, donc ça se joue comme ça. Et y a de tout. Il y a patrimoine et histoire, du sport, de la culture. Je parle pour Toulouse. Des lieux, des personnages. Voilà, donc c'est très varié à chaque fois. Il y a donc une photo et chaque fois 5 indices pour trouver qui se cache derrière ce lieu ou ce personnage. Voilà.
Beau cadeau de fête de fin d'année, ça.
Oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est ouais. deux jeux qui doivent sortir aux éditions Kerbe, mais peut-être qu'on en reparlera ensemble.
Ouais. Non, oui, j'espère bien. je te laisse le mot de la fin. As-tu des remerciements ou un coup de gueule?
Non, j'ai pas de coup de gueule. Non, je suis plus à encourager les gens à acheter des topo guides, voilà, parce que on trouve beaucoup de choses sur Internet. Alors, il y a parfois des gens qui font des topos sur Internet qui sont très bien. Donc voilà, moi j'ai pas à les critiquer. Ils les donnent gratuitement, ben tant mieux pour la communauté de randonneurs qui veut circuler dans certains endroits. Moi voilà, je donne des topos en tout cas que j'ai testé, où il y a de l'histoire de la joue en plus. Donc moi j'ai pris du temps, aussi des bons moments hein, quand même pour les faire. Mais mon plaisir c'est de les partager, de transmettre, donc bah, que les gens s'en servent. Donc c'est plutôt un encouragement à ce que voilà, il soit lu, qu'on n'écrive pas pour rien. Moi ce que j'ai envie c'est que les gens ils continuent d'aimer la montagne, de la respecter en tout cas. Donc d'emporter leurs déchets, de pas faire des feux n'importe où, de pas jeter des pierres n'importe où, de pas faire du bruit n'importe où aussi, et de respecter la faune et la flore quoi, qu'on peut observer. Voilà, c'est essentiellement ça. Et puis pour la faune, et ben moi ce que j'aimerais c'est que ouais, on va pas rentrer dans les polémiques, mais qu'il y ait un respect en tout cas des populations locales pour des réintroductions, mais aussi que les gens qui habitent localement dans certains endroits, ben ils respectent aussi la faune. Et je parle pas que de l'ours, je parle aussi du grand tétra. Quand on voit que la chasse au grand tétra, eh ben elle réouvre, je me dis bah je comprends pas quoi. Aujourd'hui on dit bah il y a plus que des endroits où il y en a quasiment plus quoi. Je parle de l'Ariège, je parle de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées,
ouais.
Par exemple. Moi, je suis assez espanté à chaque fois quand je vois que le préfet du département décide de rouvrir la chasse en septembre-octobre et puis de la clore un mois plus tard. Bon, c'est vraiment étrange, voilà.
Oui,
Donc
tout à fait.
on peut peut-être en parler, on peut se questionner, on peut se dire tiens, pourquoi quoi? Et je pense qu'il y a des choses peut-être à aller gratter de ce côté-là. Et après, ouais, que les gens soient curieux, en tout cas, de découvrir des sentiers, de pas hésiter de sortir des sentiers battus en tout cas et d'aller en voir d'autres.
Merci, merci, merci Patrice Tesser Dufour donc d'être venu dans nos studios de Radio Galaxie pour nous présenter ton dernier ouvrage qui s'intitule, je le rappelle, Randonnée dans les Pyrénées. Donc c'est aux éditions Sud-Ouest. Je rappelle que tu nous proposes 26 balades familiales dans les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Ariège.
Ouais, merci Francis et à bientôt.
À bientôt pour le prochain.